19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bienvenue chers amis auditeurs et auditrices, quel plaisir de vous retrouver. Et bien sachez-le, c'est parti, nous sommes ensemble dans les informés jusqu'à 20h pour commenter, décrypter et analyser l'actualité, chers amis. Oui, c'est comme ça que ça se passe ici, hein. Et puis vous êtes prioritaire, vous le savez, vous nous appelez au 01 53 48 3000 et vous passez en direct, vous êtes prioritaire au 01 53 48 3000. Vous venez quand vous voulez, durant une heure bien sûr, pour évidemment nous interpeller sur les sujets qui sont les suivants. Tout d'abord, nous reviendrons sur la grève dans l'éducation nationale aujourd'hui. Vous savez, c'est l'exaspération chez les professeurs. Et puis cette polémique chez les professeurs, pas du côté des professeurs, mais du côté de la toute nouvelle ministre, Amélie Oudéa-Castéra. C'est chaud quand même, hein. C'est chaud parce que ils veulent une mobilisation qui risque d'être sans précédent. Alors on va en parler, hein. Mais alors d'autres manifs aussi, c'est les agriculteurs à l'Assemblée nationale qui ont quasiment se sont fait entendre. Vous savez, la coordination rurale annonce des départs de partout. Et puis Bruxelles, vous savez que la Belgique aussi, la Belgique à Bruxelles, ça a été pris d'assaut par les agriculteurs. Ils l'ont encerclé. Et ben on va en parler. Finalement, quelle décision pour les agriculteurs? L'action, en tout cas, elle continue d'être partout. Alors, on a négligé un peu le conflit israélo-palestinien, chers amis. On en a beaucoup parlé dans les débuts, depuis le 7 octobre. J'avais envie d'y revenir parce que, figurez-vous que certains spécialistes ils disent que, en gros, eh bien, le Hamas a le couteau sous la gorge. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est certains spécialistes. Eh bien, on va en parler. Finalement, quelle issue dans ce conflit qui risque de durer encore longtemps? Le Quoi de Neuf avec Pascal Boniface. Pascal Boniface, vous savez, c'est une signature, hein. Le président fondateur de l'IRIS. À 19h50, il viendra nous parler de son regard autour de l'actualité. Allez, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Et plus que jamais en toute liberté d'expression.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Le face-à-face, vous le savez, c'est à la fois avec Farid Haïd. Ah, et Farid Haïd. Le suppléant du député suppléant, mais également élu sur la ville de Villepinte. Comment ça va, cher Pierre Fitt, pardon. J'ai dit quoi? Villepinte?
T'as dit Villepinte?
Je sais pas pourquoi je vous.
Je vois. Villepinte, t'as dit, là, quand même.
Je le vois à Villepinte.
Ouais,
pas
mais je sais pas. Non, mais bizarre, ouais, hein. Vois-moi à Pierre Fitt. Bonjour Adil et bonjour à tous les auditeurs et auditrices.
En plus, le pire, j'ai sous les yeux son calendrier.
C'est pas marqué en plus. Non, c'est pas marqué.
C'est pas marqué.
Le Seine-Saint-Denis, mais Farid, c'est pas marqué.
Farid Haïd, il vient avec un calendrier, beau gosse, le mec, s'est fait un cravate. Le communiste. Hein.
Playboy,
je vous jure, là.
Communiste 2.0.
Il pousse pour la ligne de Playboy, le mec. Attendez, regardez. Franchement, regardez.
Le tisseur commercial.
Sérieusement.
C'est clair.
Non, mais pour moi, t'es pas un communiste. Pour moi, vous êtes pas un communiste pour moi.
Ah non, pourquoi un dîner?
Je sais pas, on dirait Renaissance.
Non, mais pourquoi tu dis ça?
Bah, c'est une belle affiche, quoi.
Bah, ou alors?
Il y a de l'argent.
Les communistes, on sait pas faire. Il y a que Renaissance qui sait faire.
Non, ils savent pas faire, les communistes.
Il y a de l'argent. Il y a de l'argent.
Non, c'est pas qu'il y a de l'argent, c'est que c'est pour les vœux, c'est important d'échanger avec la population et
moi,
avec les partenaires.
Ça me fait plaisir.
Et souhaiter une bonne année 2024, même si elle commence malheureusement mal depuis quelques semaines.
Il est beau. Il sait offrir des cadeaux, lui.
C'est clair.
Ouais, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024, Farid Haïd, conseiller municipal. S'il finit pas maire, lui, vous allez voir.
J'espère.
Gamal Abina, alors, comment ça va, mon cher Gamal Abina?
Comme d'habitude, bonsoir à tout le monde.
Ça va?
Bah oui, bonne année.
Ça bataille ou ça tiraille?
Ah, ça arrête pas en ce moment.
Ouais.
On parle beaucoup, beaucoup.
Vous êtes tiraillé ou quoi?
Non, je suis pas tiraillé, je suis cohérent, mais il y en a beaucoup qui ont du mal à. Je faisais des positions cohérentes.
Ouais, mais bon, si vous voulez. Après, je pas envie de vous poser la question.
C'est le en même temps.
Non, pas tout à fait. Non, c'est plus de l'acheter. Hein.
Habituez-vous, mon cher ami.
Là, on parle de l'acheter, pas plus en même temps.
Hassan, ça va, Hassan?
Ça va.
Ouais. Ben Barki.
Ben Barek.
C'est vrai.
Vas-y,
allez-y, les clochettes, allez-y.
Élu à Montpellier.
Bon, c'est un baraque.
Ben Barek. Élu à Fréjus.
Non, vous savez pourquoi? Parce que. Non, je veux dire, c'est.
Adil est fatigué ce soir. Auditrice, auditeur.
Attendez, on va tout balancer ce soir. Il m'arrive que des brouilles. Je veux dire pourquoi. Non, attendez, il faut dire aux auditeurs pourquoi je démarre mal. Je suis tombé en panne.
Ah.
Donc déjà, en arrivant à la radio, j'arrive à la radio en retard.
Ah oui.
Et j'arrive en panne, figurez-vous.
Ouais.
Donc vous savez, quand ça démarre mal.
Ouais, la journée est pas mal.
Ça continue, c'est ça que tu veux dire?
C'est ça.
Mais non, t'inquiète monsieur pas, ben ça, Barek, va, ça va aller. Ça
vous,
va aller.
Vous inquiétez pas, monsieur Ben Barek. Oui. Ça ne se reproduira pas. Vous connaissez, vous deux, ou pas?
Non, je crois que c'est vu une fois, non. Je suis pas sûr.
C'est un ancien, lui, hein. Vous savez, c'est.
Je suis ancien aussi, hein. Et le compteur tourne.
Chantier aussi. Non,
je sais pas, peut-être. Non, peut-être que c'est
ça. Elle a le bon Hassan.
Tu marches cher.
C'est pas ça, ouais, c'est que c'est un leader associatif, cet ami Hassan.
Oui.
Ah ouais, et puis un proche de qui? Dites-leur si vous êtes proche de qui. Dites-leur.
Je suis
proche de beaucoup de gens.
Non, mais celui qui a lancé la marche en Algérie.
Ah, en Algérie.
La Hirak.
Ah, je suis Nekaz, oui.
Nekaz,
très proche de Rachid Nekaz. Bah, je ne suis pas ironique, hein, c'est
non,
vrai.
Non, mais j'entends bien, mais ça, c'est revenu.
Il est revenu, il suit son dossier.
Il est revenu.
Ouais. Parce qu'il n'était pas en forme, le pauvre. Hein.
Bah, disons qu'il était.
Voilà,
bon, c'est une affaire compliquée.
Vous connaissez ?
Très compliquée.
Un des leaders. Allez, messieurs, nous allons parler, vous savez quoi, de ce sujet qui nous concerne tous. Les amis, comment vous êtes organisés, les parents ? Tiens, les parents qui ont des enfants. Que compliqué aujourd'hui la journée, parce que comment vous avez fait pour vous organiser, justement. Pour vos enfants aujourd'hui. Ça a été compliqué ou pas? Parce que on a besoin de vos témoignages justement. 01 53 48 3000, mais Soleil, il me dit, il y a un bouton là. Vas-y, allez.
Les informer. Le face-à-face.
Face-à-face, c'est parti, chers amis. En attendant, vos appels au 01 53 48 3000. Alors, Amélie, vous savez, Oudéa Castéra, justement. Beaucoup d'enseignants veulent se remobiliser à cause de tout ça. Ils sont exaspérés. Est-ce qu'ils ont raison, Hassan?
Bah écoutez, il y a 15 jours, donc j'étais intervenu sur le cas de cette ministre, sur lequel je préconisais qu'elle démissionne.
Ouais, c'est vrai. Bah là, elle s'accroche.
Et là, elle s'accroche, je crois. Bon, je pense que.
Surtout que les enseignants sont exaspérés. Est-ce que c'est légitime?
Bah, c'est tout à fait légitime, puisque je crois qu'il y a eu un communiqué qui a été diffusé par l'ensemble du corps enseignant, sur lequel il dénonçait un petit peu les politiques qui organisent une forme de séparation sociale, quoi.
Oui.
Donc, dans la mesure où qui, en fin de compte, minait la cohésion nationale, la cohésion sociale. Donc, à partir du moment où cette dame a une fois, deux fois menti, c'est extrêmement mal perçu.
Là, ça sent pas très bon pour elle.
C'est extrêmement mal perçu. Et donc, ça confirme ce qu'on disait il y a 15 jours. Je pense qu'il y a le porte-parole du gouvernement qui a clairement dit qu'elle lâchait cette ministre. Donc je pense que ça serait judicieux à la fois pour le gouvernement de trouver un autre profil de façon à essayer de reconstruire quelque chose de positif.
Farid Aïd, justement, les revendications, vous savez, elles sont nombreuses, hein, justement. Elles sont à la fois autour des salaires, autour de l'organisation, autour de la personnalité qui est celle de Madame Oudéa Castéra. Beaucoup, hein, évidemment, se sont mobilisés, y compris à cause de ça. Et il y a une grande, grande colère, il faut le dire.
Bien sûr. Non, mais c'est vrai que deux, trois choses. D'abord, moi, je dis mon soutien à tous les enseignantes et les enseignants qui étaient là, qui ont fait grève aujourd'hui. Moi, j'y suis allé les voir à la Bourse du Travail à Saint-Denis parce qu'ils faisaient ils organisaient une assemblée générale.
Qu'est-ce que vous avez échangé?
Ils ont échangé toutes les questions qu'on parle depuis des semaines et des mois. Vous vous rappelez, Adil, quand le ministre de l'Éducation nationale est arrivé au mois de août, et son premier programme, c'était comment on va faire pour interdire la baïa.
Ouais. Voilà. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est les échanges. Vous avez vu, est-ce que vous avez, par exemple, échangé sur les inquiétudes, sur les mesures annoncées par la ministre? Est-ce que vous avez échangé sur les boulettes, c'est la maladresse? Est-ce que vous avez échangé sur toutes ces questions qui préoccupent? Sur le salaire aussi, sur les conditions de travail? Parce que c'est ça aujourd'hui, les enseignants.
Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'ai échangé avec eux sur toutes les questions que tu dis, mais ils ont une grande inquiétude. Ils ont une grande inquiétude parce que les moyens ne sont pas là, parce qu'ils ne sont pas valorisés, parce qu'ils ne sont pas entendus, parce que, comme on l'a dit à plusieurs reprises, de plus en plus, il y a des enseignants contractuels qui sont malheureusement pas formés et qu'on les met devant les classes, on les lâche comme ça, sans suivi, sans rien, c'est-à-dire ça crée des difficultés. Ils parlent aussi des salaires. Les enseignants ont le salaire le moins important de l'Union européenne. Ça, il faut le signifier. Ils disent aussi que il faut limiter les classes entre 20 et 25 élèves par classe. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Moi, j'étais encore au lycée de Pierrefitte, qui a été inauguré il y a que 2 ans à Dille. Il manque une infirmière, il manque une assistante sociale. La gestionnaire vient de partir il y a une semaine, il manque des enseignants.
Donc la colère, elle est là.
Elle est réelle et les enseignants sont inquiets.
Mais vous, mais vous en tant qu'élu, vous, je vous pose la question parce que ça vous concerne. Vous êtes un élu local, vous échangez avec ces enseignants. Franchement, pas de souci, ils sont en colère. Mais qu'est-ce que vous captez chez ces enseignants? Est-ce qu'il y a une perspective justement dans les mois à venir?
Non, mais la perspective, c'est d'abord d'avoir une ou un ministre qui soit là pour travailler, qui soit là pour discuter, échanger avec les enseignants sur le malaise qu'ils ont chaque jour. Ça, c'est le premier point, Adil. Et en même temps, dès qu'on travaille sur ce point-là, c'est donner des perspectives d'avenir. Mais pour les enseignants, mais avant tout, Adil, pour nos enfants. Parce que c'est la réussite de nos enfants. Si les enseignants ne sont pas bien, ne sont pas respectés, ne sont pas entendus, n'ont pas le salaire qu'il faut, etc. C'est-à-dire qu'il y a un malaise. S'il y a un malaise, il peut aussi, malheureusement, avoir aussi un malaise dans les classes, dans les écoles, etc. Ça veut dire que c'est toute une chaîne qu'il faut revoir, Adil, et qu'il faut regarder ça. Il faut à peu près...
Les
syndicats nous disent... Excuse-moi, Adil, les enseignants nous disent qu'il faut à peu près 90 000 nouveaux postes d'enseignants formés sur l'année 2024.
Ouais. Mais justement, est-ce que vous considérez, vous, je vous pose la question, est-ce que aujourd'hui le gouvernement reste sourd, Gamal Abina, est-ce qu'il reste sourd face à cet avertissement de plusieurs reprises auprès du gouvernement?
Vous avez fait référence à une colère, c'est pas une colère, c'est une succession, tout le monde est en colère en ce moment, pour des raisons X ou Y. Il y a une réalité, c'est qu'il y a deux choses qui
s'opposent. Ça s'est aggravé alors?
Oui, mais ça fait que ça aggravé parce que la problématique qui se pose, l'histoire des 30 élèves par classe, ça fait 40 ans que ça dure, c'est pas d'hier. L'histoire, par exemple, des crèches, elle a jamais assez, ça fait 50 ans que ça dure, ils ont pas construit de crèches. Alors, ça paye moins en moins d'enfants. Mais l'histoire des agriculteurs, c'est il y a 40 ans, Mitterrand, il y avait déjà le problème. Chacun se retrouve dans une situation d'impasse où, effectivement, sur le plan économique, le gouvernement de M. Macron, c'est un gouvernement qui est un technocrate, qui veut faire des économies, de grandes économies, pour réduire le train de vie de l'État, donc le coût des fonctionnaires. Ce que les gens ne savent pas, c'est que le coût de la masse salariale des fonctionnaires d'État, c'est 50% du budget de l'État.
Oui.
Et que 50% du budget de l'État est levé par l'impôt indirect et la TVA. Et que la TVA a explosé. Donc théoriquement, on devrait avoir plus de moyens. Problème, c'est qu'il y a une dette abyssale qui doit être comblée et Macron ne vit que pour cette dette. Il veut tout faire pour combler les déficits.
Je marque une pause, vous savez quoi? Et on reviendra sur Amélie Oudéa-Castéra, qui est ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et des Sports. Ça fait beaucoup de casquettes, évidemment.
Jeux Olympiques et Paralympiques,
justement. Ouais, alors, j'en parlerai. Aujourd'hui, la question qui se pose auprès de tout le monde, y compris de certains macronistes, c'est doit-elle démissionner? Puis, ce qui a mis le feu aux poudres, ce sont ses propos, rappelons-le. Alors, chers amis auditeurs et auditrices, je voudrais aussi vous entendre au 01 53 48 3000. Je voudrais vous entendre parce que est-ce que vous comprenez les enseignants quand ils se mettent en grève, même si je sais que beaucoup d'entre vous, ça les agace parce que ça demande une réorganisation de tout. Alors, je voudrais vous entendre, 01 53 48 3000, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Ouais, les informés, vous le savez, il est 19h20. Le jingle des auditeurs, chers amis.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Eh bien, je vous attends partout en France. Venez justement commenter l'actualité concernant les enseignants. Est-ce que vous comprenez leur mouvement de grève? Et puis surtout, ils ont tout bloqué. Est-ce que vous les soutenez? Est-ce que vous êtes solidaires? 01 53 48 3000. Ou est-ce que cela vous agace? Messieurs, faisons un tour de table. Hassan, justement, Ben Barek. Parce que moi, c'est quelque chose qui m'interpelle vraiment au plus haut. J'ai posé la question tout à l'heure à Gamal Abina. La situation s'est aggravée, on le sait. Ils ont lancé plusieurs avertissements, on le sait. Est-ce que ça risque d'aller encore plus loin? Et puis, doit-elle, on le sait, beaucoup réclament cette démission. Mais d'avertissement en avertissement, ça peut se transformer en quoi cette histoire? Chez les enseignants.
Vous savez, lorsqu'un mouvement commence, on ne sait jamais où il peut s'arrêter. Donc, je pense qu'il faut. Le bon sens voudrait que le pouvoir public réponde immédiatement aux revendications de tous ces enseignants. Donc je pense que faire démissionner cette ministre, Madame Castéra, je pense que c'est la chose la plus atteignable aujourd'hui pour les pouvoirs publics. Mmh. Et on voit, il y a une multiplication, je dirais. Là, on a les profs, on a les agriculteurs.
On a les taxis.
Donc, aujourd'hui, il y a un ras-le-bol, il y a un mal-être, il y a un ras-le-bol général. Et je pense qu'il faut pouvoir apporter des choses concrètes à ceux qui revendiquent.
Gamal Abina, ouais. Non, mais c'est vrai, à quoi peut-on s'attendre? C'est quoi?
Bah, moi, je vais te rendre avec...
Comme dit Hassan, par exemple, Mbarek, est-ce que c'est des blocages avec toutes les institutions? Là, on pense aux enseignants, on pense demain aux taxis, on va penser aux agriculteurs, et puis ça va contaminer d'autres et donner des idées à d'autres aussi.
Bah là, il commence à y avoir une sorte de convergence de certaines classes, hein, parce qu'il y a beaucoup d'impact. L'agriculture, c'est toute la grande distribution qui pose problème, on n'en parle jamais. Il parle que de l'importation, il parle que de choses qui sont liées à l'Europe. Il y a d'abord un problème en matière de rémunération des agriculteurs. La grande distribution les exploite. Il faut être très honnête, il faut dire les choses. L'autre jour, à CNews, j'ai fait un débat contre un gars du FN. Il m'a répondu non, mais on va les défendre. Non, vous ne les défendez pas, puisque vous ne parlez pas de la grande distribution. C'est une hypocrisie vaste. Aujourd'hui, le seul chantier qu'il faille remettre en place, c'est que les gens soient payés normalement, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes qui manifestent pour des raisons X ou Y, parce qu'il y a une multiplication des difficultés, il y a une multiplication de la paupérisation qui n'arrête pas d'augmenter, et il y a une paupérisation massive qui fait que ceux qui ne sont pas encore rentrés là-dedans, un peu comme les gilets jaunes, s'inquiètent de la dégradation de leurs conditions économiques et d'avoir un déclassement eux aussi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans un pays qui est surendetté, dans lequel l'État fait des économies d'échelle considérable, on ne peut pas espérer... qu'il n'y ait pas de grogne sociale. Aujourd'hui, les agriculteurs, c'est le là des années 80. D'ailleurs, Mitterrand a connu ça dans les années 80. Vous devez vous rappeler. Ouais. Quand il bloquait avec tout ce qu'on a vu, le pisé de ça. Enfin, c'était catastrophique. C'était vraiment très violent à l'époque. Il a fallu reculer. Sauf qu'il avait les moyens économiques de reculer. Aujourd'hui, M. Macron a moins de moyens. Mais il est obligé de composer avec sa politique nationale et avec l'Europe et avec les pays avec lesquels il a fait les signatures par rapport à ce fameux accord de Mercosur. De libre-échange, voilà. Donc tout ça, c'est des problématiques qui se posent. Mais en réalité, la vraie problématique, c'est quoi? C'est est-ce qu'on est capable dans un pays sérieux, on parle de pays sérieux, où il y a des difficultés qui s'amoncellent, par exemple la question ukrainienne où ils ont inondé les marchés de blé qui ont cassé le prix du blé. Est-ce qu'on est capable de dire on va faire du patriotisme économique et protéger les gens qui produisent de la richesse dans certains pays provisoirement, pas de façon permanente, mais comme De Gaulle, rétablir le contrôle des prix, faire en sorte que ceux qui sont fragiles, et on parle des paysans,
rétablir le tarif à plafond.
Oui, parce que De Gaulle est un homme de droite, et on me dit oui.
Plusieurs fois que vous le dites dans ce micro.
Oui, parce que j'ai entendu, on m'a dit vous n'êtes pas communiste. Bah non, De Gaulle n'est pas communiste, et pourtant il a fait quelque chose pour préserver la population. S'il faut penser en termes de réalisme économique, à savoir quoi.
Vous avez réussi à faire rire notre communiste. Hein.
Bah parce que c'est de quoi je parle, vu que les communistes étaient alliés à De Gaulle, je pense qu'il lui parle. Mais quoi qu'il en soit, le CNR a fait le travail. Aujourd'hui, il faut penser que les populations. Il y a une inquiétude grandissante, il y a une paupérisation, il y a une inflation qui est galopante, et surtout, il y a un problème de répartition des richesses. Comment la France, vous vous rendez compte, a été capable d'être le seul pays au monde à avoir le premier milliardaire en Europe, hein. C'est en France qu'il est maintenant. Il a battu Bezos, il a battu tout le monde. Est-ce que c'est normal que cet homme se soit enrichi dans les proportions abyssales avec
vous
une population
de LVMH.
Qui... Bien sûr. Comment?
Oui, bah LVMH.
Oui, bien sûr, on s'entend bien. Donc on est dans le luxe en plus, comme par hasard, le luxe. Et c'est un homme qui a la plus grande fortune. Donc il y a un vrai problème. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à ça. C'est des problématiques qui vont conduire, si ce n'est pas géré, en explosion sociale. Et je rappelle que la Révolution française s'est faite parce que le peuple voulait du pain.
Oui, exact. Oui. Alors, Farid Haït, justement. Oui. Bon, parlons-en. Non, mais est-ce que, même question, moi, est-ce que cette lutte des convergences dont fait référence Gamal Abina ne risque-t-elle pas justement de s'emparer de notre pays?
Non, mais bien sûr.
Parce que là, bon, si ça bouge pour les agriculteurs, tant mieux pour eux.
Bien sûr.
Demain, ça va donner des idées à d'autres.
Bien sûr.
Les boulangers.
Mais on l'a vu, on le voit. D'abord, juste pour terminer, je voulais dire aussi que les enseignants aussi ils s'inquiètent aussi des réformes à venir. Parce que vous savez qu'il y a la réforme des collèges, etc. Il y a des réformes où ils ne sont pas associés, etc. Et comme ils ne sont pas associés, etc., ils ont du doute de l'efficacité. C'est pour ça que je pense pour.
L'efficacité, c'est parce qu'ils ont le sentiment d'être baladés en permanence.
Exactement, c'est ça.
C'est normal.
C'est ça.
Et c'est pour ça qu'ils font.
Et c'est pour ça qu'il faut revenir.
Moi, je pense qu'il faut apaiser les choses.
Et pour apaiser les choses, il faut que la ministre puisse partir, qu'il renomme une autre ou un autre ministre et que réellement ils sont à l'écoute. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on voit bien, là, les agriculteurs. Alors, les agriculteurs, vous avez vu dans les médias, ils passent pour les gentils, ils sont tranquilles, ils sont avec les tracteurs.
Bon,
Darmanin
est gentil.
Darmanin, il est gentil avec eux, etc. Même si ils cassent un petit peu les préfectures, ils mettent du foin, etc. Mais on voit quand même il y a deux points de mesure. Quand il y a d'autres manifestations, et vous vous rappelez la réforme des retraites, où il y a eu des millions de personnes dans la rue, ils n'ont pas été entendus. Et pourtant, le 80% ou 78% de la population était contre la réforme des retraites.
Mais
il l'a passé en force. Et moi, je pense qu'à un moment donné, les autres, on l'a bien vu au moment de la grève, là, de la manifestation, les agriculteurs, les taxis, ils sont commencé à venir. Ils commencent à venir. C'est-à-dire que je pense que, et là, les enseignants, etc., je pense que ça va se démultiplier. Parce
vous
que les
quoi,
gens, ils en ont marre.
Il dit quoi, Fabien Roussel?
Non, mais parce que les gens, ils en ont marre. Parce que les gens, ils en ont marre parce qu'ils travaillent.
Mais on entend
ils travaillent.
Fabien Roussel,
non, mais
on entend pas beaucoup,
hein. Non, mais Gabriel Attal, il dit quoi, Gabriel Attal? Il dit, il faut c'est quoi le terme? Démiscariser.
Nouveau terme d'ailleurs.
Voilà. Un nouveau terme. C'est un peu comme Macron a dit quand il parle, il faut réarmer. C'est des formules pour qu'on s'attache aux formules et qu'on s'attache pas au fond. Le fond, c'est quoi, Adil? C'est que les gens, ils souffrent et que même les gens qui travaillent aujourd'hui, qui ont un salaire, ils souffrent. Parce que, comme le disait Gamel Abida, tout augmente. L'électricité augmente. Mmh. Il n'a pas parlé, Gabriel Attal, de l'augmentation de 10% l'électricité.
Alors,
au 1er février
Attal,
2024. Il a rien, il fait rien.
Desmicardiser la France.
Voilà. C'est ça.
C'est la blague du siècle.
Voilà.
C'est pour ça qu'il a dit.
Moi, je pense.
Desmicardiser.
Tu disais qu'est-ce qu'il pense, Fabien Roussel? Fabien Roussel, il pense, comme nous, on pense, qu'à un moment donné, il faut.
Non, mais on le voit pas beaucoup. On voit tout le monde, mais.
Non, je suis pas d'accord.
Il faut. Attends, juste terminer. Il faut quelque chose de simple. Il faut qu'on vive de notre travail. Il faut qu'on arrête de nous enfumer sur des belles paroles, parce que toutes les belles paroles, c'est que du libéralisme.
Ben attendez,
il faut qu'on puisse y vivre.
Vous me permettez une belle transition, parce que justement, l'agriculture, on va en parler, parce qu'il y a la colère des agriculteurs de plus en plus. Aujourd'hui, ils se sont emparés de Bruxelles.
Exactement.
Ils l'ont entouré, ils ont encerclé Bruxelles. Et puis,
Et comme par hasard, Macron, il a commencé à donner quelques mesures là.
Alors, je sais pas. Alors, on va poser la question. Finalement, est-ce qu'il a fait, il a réussi à faire bouger les lignes à Bruxelles, Emmanuel Macron, parce qu'ils étaient aussi, figurez-vous, les agriculteurs aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Gamal Abida, alors parlons-en justement.
Déjà, une chose très rapide, parce que.
Farid Aïd, il dit quelque chose de très juste. Et c'est ça le truc. Il faut qu'on vive de notre métier.
C'est normal. On appelle ça les travailleurs pauvres, et c'est un phénomène états-unien qui existe, où les gens travaillent et dorment dans la voiture. Donc, c'est vers ça qu'on est en train de tendre, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le problème, c'est
mais
que.
Mais je les ai croisés, moi, dans Paris.
Oui, il y en a, mais partout, malheureusement.
Dans le bâtiment.
De plus en plus. Il faut comprendre une chose, c'est que la peur de l'establishment. Alors d'abord, les politiques sont absents, c'est vrai, parce que les manifestations se font sans les politiques. La FNSEA a été squeezée parce qu'on ne lui fait pas confiance. C'est une base populaire comme les gilets jaunes. On parle gilets verts maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui fait peur à Macron, mais pas seulement, à Scholz et à toute l'équipe du gouvernement espagnol, c'est qu'il y a une convergence de lutte européenne. Les agriculteurs européens sont tous d'accord pour dire qu'en Allemagne, on n'est plus d'accord. Parce qu'il y a des fautes politiques comme l'histoire de l'Ukraine qui ont été calamiteuses. La Pologne est très en colère pour ça. Et parce que ses conséquences après Covid, après tout un tas de choses, sont très lourdes. Donc c'est vrai que, qu'est-ce qui va se passer? La question que vous posez, probablement un renforcement du mouvement social qui va être de plus en plus violent, de plus en plus en rupture et qui ne croit plus aux paroles. Aujourd'hui, on ne croit plus aux belles paroles. Les effets d'annonce gouvernementaux du gouvernement, c'est bien beau. Hein. Desmicardiser, vous avez parlé de ça, mais ils se moquent de nous.
Ça veut dire quoi?
On est dans une société. Ça on n'est pas incroyable. Pour le coup, on n'est pas chez les cocos. On est une société où c'est l'ultra-libéraliste qui fait ce qu'il veut.
Bien
donc
sûr.
Les salaires sont fixés à minima par le gouvernement, mais il va pas les augmenter massivement. Il y a une inflation galopante. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte, et c'est là où c'est plus grave. Je veux quand même dénoncer une chose grave. Il y a une inflation galopante, même pour ceux qui se rémunèrent à l'Assemblée nationale ou au Sénat. 300 euros, 700 euros, eux ils s'embêtent pas. Hein.
Oui, mais oui, ça c'est malheureux, ça. Franchement, ça donne un mauvais signe, ça. Il faut pas accepter.
Est-ce qu'on peut s'attendre à la levée de ce blocage justement qui a paralysé
la
France?
Non, je ne pense pas. Non, mais
non.
Pour rebondir un peu sur ce que tu disais, concernant par exemple les importations de blé de l'Ukraine en Europe entre 2021 et 2023, au départ il y avait 200 000 tonnes de blé. Maintenant, on en est à 5 millions de tonnes, c'est-à-dire multiplié par 20. Ouais, c'est donc, aujourd'hui, les agriculteurs, que ce soit en France, mais en Europe, en tout cas les céréaliers, trouvent ça relativement scandaleux. Et tout ça au nom du principe de solidarité avec l'Ukraine. Donc, il y a un ras-le-bol général, et comme disait mon collègue, les gens, ce qu'ils veulent, c'est simplement vivre, gagner, de quoi faire vivre leur famille. Et donc, on ne peut que soutenir ce type de démarche. Donc, et la deuxième chose aussi, lorsqu'on voit par exemple le Premier ministre qui emploie des mots, des néologismes, comme tu disais, il y a un instant, un jour c'est des SMIC, un jour c'est le réarmement, un jour c'est le séparatisme. Voilà. On a l'impression qu'il y a des concepts derrière, on a l'impression qu'il y a énormément de communication. Mais les gens aujourd'hui veulent du concret. Et moi, si j'avais un conseil à donner au gouvernement, c'est d'arrêter avec ce type de méthode qui consiste à venir parler, sortir des concepts, des mots, histoire de dire qu'on est sur la bonne voie, d'avoir un profil bas et de se concentrer sur des choses concrètes,
sur des choses concrètes,
de donner des choses concrètes et d'arrêter de penser que les agriculteurs, les gens sont stupides. Les gens savent très bien aujourd'hui ce qui se passe.
Un agriculteur par jour qui se suicide, voire deux maintenant.
Un sur deux, non ?
Non, ouais, un qui se suicide par jour. C'est une hécatombe. Ils sont 410 000. On a divisé par 20 la quantité d'agriculteurs depuis 90. Ils ont fait des rassemblements, ce qu'on appelle les concentrations. Aujourd'hui, ils sont 410 000 et ils ne s'en sortent pas. Alors que logiquement, quand on augmente la surface agricole, on augmente ses revenus. C'est pas le cas aujourd'hui.
Farid Haït, je vous ai pas entendu, sauf si on peut lancer la pub. Je la lance maintenant, comme ça nous permettra d'avoir un peu plus de temps. Vous savez, les amis auditeurs, je voudrais vous entendre sur le conflit israélo-palestinien. Finalement, n'a-t-on pas oublié ce conflit? Est-ce qu'on n'est pas en train de l'oublier, de l'écarter du paysage politique? Franchement, je vous le dis clairement, parce que plus personne n'en parle. Plus personne parle
en France,
de ce qui peut-être, mais très peu. Plus personne, voire très peu, parle de ce conflit israélo-palestinien. Bah, justement, je voudrais vous entendre au 01 53 48 3000. Est-ce que ça vous choque? À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h. Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés avec Farid Haït, les informés avec Hassan Bambarek, les informés avec Gamal Abina. 01 53 48 3000, je voudrais vous entendre sur le conflit israélo-palestinien. Finalement, n'a-t-on pas oublié ce conflit? Est-ce que vous êtes choqué ou pas du tout le fait qu'on le traite de moins en moins, dans tous les médias d'ailleurs, on en entend très très peu parler. Je voudrais, ce sera le sujet évidemment juste après, parce que je voudrais conclure. Finalement, est-ce que les choses ne sont pas en train de bouger, parce que je vois que le barrage peut-être va être levé, c'est ce qui se dit. Alors, dans cette crise agricole, mais peut-être finalement, le chef de l'État, Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'a pas réussi à débloquer la situation à Bruxelles, Gamal Abina? Ou Farid Haït?
Moi, je ne crois pas. C'est vrai qu'il a fait des annonces. On a regardé. Il a fait quelques annonces, Macron, sur l'Europe.
Il n'a pas parlé pour rien dire.
Sur le Mercantour, sur Mercosur, sur un ensemble de problématiques, sur l'agriculture. Alors, bien sûr que, ce que je disais tout à l'heure, que là, les agriculteurs, il y a certains qui vont rentrer à la maison. Mais moi, je pense qu'ils vont déchanter. Parce que là, aujourd'hui, c'est des promesses, c'est des discussions, mais on sait très bien que on va voir si ça se fait dans le temps. Et moi, j'attends le temps pour savoir si vraiment les agriculteurs vont être contents ou pas.
Je pense pas que ce soit des promesses. Je pense qu'il a conscience que c'est un avis personnel, hein, que si on parle déjà de la levée des barrages, c'est que forcément on a dû donner des garanties aux agriculteurs, et il sait très bien qu'avec tout ce qui vient derrière, avec les différentes grèves des différentes corporations, l'éducation nationale, les taxis, les boulangers, qu'il faut qu'il règle au plus vite ce problème avec les agriculteurs. Donc, il ne peut pas se permettre de jouer. Donc, il est obligé de donner du concret. Et là, on voit bien que la communauté européenne a répondu d'une façon favorable aux demandes de la France. Donc,
exactement.
Je pense qu'il a dû mettre,
il a dû mettre
de la pression en disant, bon, voilà, là, c'est plus possible. Bon, alors maintenant, on verra dans les quelques jours si ce
Gamal Abina avant de retrouver Mohamed de Paris.
Ben, simplement de dire que d'abord, s'il l'a fait, c'est pas tout seul. Hein.
Ouais, finalement, est-ce qu'il n'a pas réussi à...
Non, pas tout seul. Il y avait l'Espagne, l'Italie, il y a aussi l'Allemagne qui est en difficulté. Donc, il y a quand même la pression des mastodontes de l'Europe. Je ne sais pas ce qu'il a réussi. Ce qui est sûr, c'est qu'il a en face de lui un mouvement protéiforme. Ce n'est pas une organisation structurée. Donc, ce n'est pas parce qu'il y en a trois qui lèvent des barrages que les autres vont le faire. C'est un peu le même principe. C'est pour ça qu'on avait peur de parler de gilets verts comme les gilets jaunes. Quand on n'a pas une organisation structurée, quand il n'y a pas mot d'ordre, c'est difficile d'en finir. Donc, je pense qu'ils ont mis le paquet pour les convaincre. C'est vrai, ils vont mettre le paquet. C'est provisoire, c'est des mesures pour le coup conservatoire. Mais sur le terme, ça ne tiendra pas la route parce que la problématique de base, elle est là. Les questions écologiques, les questions de l'importation, les questions du dumping social, tous ces éléments-là qui font mal à l'agriculture française, ils sont au rendez-vous.
Tout de suite, on va accueillir, vous savez quoi ? Mohamed de Paris. C'est la petite sonnerie qui nous dit qu'on a quelqu'un en direct. C'est l'esprit. Bonsoir Mohamed.
Oui, allô, bonsoir tout le monde.
Bonsoir, vous nous appelez de Paris, vous êtes un Parisien, mon cher Mohamed, on vous écoute alors sur la question du
conflit. Oui, en fait, je suis un Parisien, je suis Marseillais d'origine, mais j'habite à Paris depuis quelques années.
Alors là, si vous êtes Marseillais d'origine, vous le restez, mon ami. Même si vous êtes Parisien, vous êtes un Marseillais dans l'âme.
Vive Marseille.
Ah ouais, c'est ça, quand on est... En général, je connais pas de Marseillais qui disent qu'il est Parisien, je crois pas, j'en connais pas. Même si vous habitez Paris, vous restez Marseillais. Et puis votre accent qui reste quand même... il vous trahit votre accent quand même, hein, voilà.
Un petit peu, ouais, on arrive à entendre que je suis pas trop du coin, donc il arrive à...
On vous écoute sur le conflit Israélo-Palestine, alors, mon cher Mohamed.
Oui, le choc, le fait que qu'on soit tous, enfin tous, je sais pas, mais moi personnellement, c'est vrai
mais
que...
Mais franchement, vous avez pas le sentiment qu'on en parle très peu, là, c'est fini, on en parle plus du tout,
c'est
même
ça.
D'ailleurs.
C'est plus un sentiment. C'est
même
plus
sur les réseaux sociaux, je vois moins de choses passer d'ailleurs.
Sur les réseaux sociaux, on en voit quand même moins, mais plus que sur, dans les médias, dans les quotidiens, dans les journaux.
Ouais,
Moi, personnellement, je suis vraiment choqué qu'on n'en parle quasiment plus. Enfin, quasiment, j'entends plus parler.
Ouais.
Ils ont, dans les messages en bas des écrans, oui, ils parlent très vite de ce qui se passe, vite, mais ils n'en parlent plus. Ils n'en parlent plus dans les médias français. Et ça, c'est un choc. C'est choquant pour moi.
Bah, carrément que c'est choquant
parce qu'il y a des événements très importants qui se sont passés ces derniers temps, comme l'Afrique du Sud qui a déposé une plainte devant la Cour.
Personne n'en a parlé, hein. Personne.
Voilà. Très peu.
La Cour internationale de justice.
Il ne faut pas froisser l'État sioniste. Donc, pour ne pas les froisser, il ne faut pas du tout qu'on en parle.
Qu'est-ce que vous en pensez, Gamal Abida?
Deuxième événement qui s'est passé, le très important aussi, c'est le fait que certains États, dont la France, a coupé l'aide aux Palestiniens. C'est l'UNRWA, il me semble.
L'UNRWA, l'Organisation des Nations Unies.
On va en parler, Pascal Boniface, il en parle tout à l'heure de l'UNRWA, justement, les réfugiés.
C'est ça,
tout à
voilà, fait. C'est choquant. C'est choquant. Donc, voilà, je voulais intervenir là-dessus, et voilà, quoi.
Mais vous avez bien raison d'en parler. Franchement, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler ce soir, parce que je me dis, quand même, il faut en parler, quoi. Merci, Mohamed, de Paris.
Il faut en reparler, vous avez raison. Vous voyez, c'est vrai que vous aussi, vous avez un petit ce sujet un peu de côté.
Ouais, on a été pris par l'actualité, dommage. C'est vrai. Mais on en reparle, bien. 0153483000, vous faites comme Mohamed et vous nous appelez.
C'est encore un plaisir de vous écouter, je vous souhaite tous une bonne soirée.
Eh ben écoutez, c'est un plaisir partagé, mon cher Mohamed, restez fidèle. 0153483000, vous nous appelez, comme Mohamed de Paris, qui est marseillais avant tout. Vous nous appelez et vous nous livrez votre sentiment concernant ce conflit israélo-palestinien. Est-ce que vous êtes choqué par le fait qu'on le traite quasiment plus? Gamal Abida, c'est vrai, l'UNRWA, ça fait beaucoup, il dit, Mohamed, clairement. L'UNRWA, la France qui coupe, évidemment...
Le financement,
et puis surtout ce conflit dont il a raison, il fait référence par exemple à la Cour internationale de justice. Il dit personne n'en a parlé, c'est passé inaperçu cette histoire.
Alors il y a un traitement effectivement où on a parlé de la partie israélienne qui se défendait, mais pas de la partie africaine, sud-africaine qui était à l'offensive la veille. Il y a un traitement extrêmement partial évidemment, mais moi j'ai envie de dire, ce soir par exemple j'ai fait l'enregistrement pour Canal Algérie, on en parle tout le temps, tous les jours, dans tous les médias arabes, les médias du monde. Ceux qui n'en parlent pas sont les pays qui sont le plus mal à l'aise avec ça, parce qu'ils soutiennent un type qui est au pouvoir, qui a des relents dictatoriaux, il voulait quand même confisquer tous les pouvoirs, Netanyahou, un type qui est d'extrême droite, un type qui dit que les Arabes, il faut le répéter systématiquement, sont les animaux humains. Je ne voudrais pas embêter le monde, mais lui qui aime bien faire des points Goldwing, les derniers qui ont dit que des êtres humains ne sont pas des êtres humains, sont des sous-hommes, c'était les nazis qui disaient que les juifs étaient des sous-hommes. Quand on a un animal humain, on est donc un sous-homme. Il faut vraiment traduire les termes. Donc le suprémacisme, le racisme, le sectarisme, la violence quotidienne, mais on en parle tout le temps, mais pas ici. Pourquoi ? Parce que les pays qui n'en parlent pas sont ceux qui ont co-créé Israël.
Mais
France,
moi je me dis,
Angleterre,
ouais,
États-Unis.
Ouais.
Et ils sont mal à l'aise parce que leur petit jouet se comporte mal aujourd'hui.
Est-ce qu'on doit faire attention quand on voit, vous savez, sur les réseaux sociaux, certaines vidéos qu'on reçoit, moi j'en vois beaucoup défiler sur les réseaux sociaux, notamment extrêmement choquantes, à la vérité, hein, où on voit les Palestiniens nus se faire limite torturer et tout.
Bah, il y a des séquences.
Après, il y a le fake et le vrai.
Il y a un truc, c'est pas des fakes. Les Palestiniens ne peuvent pas fabriquer des vidéos, malheureusement, c'est tellement abondant. Le niveau de barbarie, on est à 30 000 morts à peu près, officiels. Hein. Et d'ailleurs, pour vous dire à quel point ils essaient de relativiser, à chaque fois que vous avez un média français, vous répondez quoi ? C'est les chiffres du Hamas. Et moi, je vous pose à cette réponse quoi ? Vous avez raison, ils sont largement sous-évalués. Parce que ce n'est pas les chiffres du Hamas qui sont réels, ils ne vont pas se vanter des morts. Effectivement, c'est beaucoup plus important. Il y a eu 60 000 tonnes de bombes. Plus de 4 fois Hiroshima. Ça veut dire Hiroshima avait 15 000 tonnes, ils ont tué entre 40 et 70 000 personnes immédiatement. Là, 60 000 tonnes de bombes, une tonne par personne, ça fait au moins 60 000 morts. Donc c'est vous dire un peu qu'il ne faut pas se tromper sur un point. On n'en parle pas dans les pays où ils sont en malaise avec ces questions-là. Et on voit bien que la question de l'UNRWA, qui est une instance internationale qui a été créée en 1949 parce qu'il fallait soutenir les Palestiniens qui étaient déjà suivis la guerre en 1948, et bien cette instance internationale, on coupe les financements parce qu'on trouve un prétexte bidon, comme quoi il y aurait eu des gens de l'UNRWA qui auraient été dedans. C'est pas vrai, c'est pas
les gens du Hamas qui ont infiltré.
Voilà, mais ça, c'est du bidon. Ce qui est vrai, c'est qu'ils sont gênés aux encablures. Et aujourd'hui, on apprend d'ailleurs qu'Israël serait prête à accepter une négociation directe avec le Hamas.
Avec le Hamas. Donc peut-être qu'on peut parler de trêve. Je vous dis juste priorité au direct. Quand je dis priorité au direct, c'est priorité aux auditeurs. Abou, un autre Parisien. Oui. Vous êtes aussi Marseillais, originaire de Marseille, vous aussi, Abou?
Non, je ne suis pas Marseillais.
Vous êtes un vrai Parisien.
Voilà, je suis un vrai parigot, moi.
Abou, on vous écoute, cher ami, cher auditeur.
Voilà, en fait, moi, je dirais tout simplement... En fait, je suis choqué, je trouve ça très, 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 mais d'une obscénité incroyable, le fait qu'on ne parle plus de la Palestine, le fait que ça soit mis au rancard, effectivement, systématiquement, on a toujours droit à des petites bandes... des petites bandes écrites qui vont parler un peu de ça, mais sans plus, quoi. C'est-à-dire que en ce moment, c'est quand même une logique de génocide qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se faire, et personne n'en parle. Pour un pays qui, soi-disant, se permettait de dire « plus jamais ça », bah c'est pas le cas. Et puis, il y a aussi autre chose qui me dérange, c'est l'approche journalistique de toute la France, sans exception, de tous les journalistes, de tous les médias français sur cette aberration de dire, déjà de qualifier ça de conflit israélo-palestinien, ce n'est pas un conflit, c'est un massacre. Je veux dire, un conflit, c'est entre deux armées, ce n'est pas entre une population civile qui s'est massacrée par la plus grosse armée du monde, qui est financée par la France, les États-Unis, l'Angleterre. Ça, déjà, c'est choquant. Ce qui me choque aussi, c'est l'approche journalistique qu'on en a faite, à savoir, où on se permet de dire que c'est le Hamas contre Israël. Mais ça veut dire quoi, ça? Je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de nationalité hamasienne, il n'y a pas de pays qui s'appelle le Hamas, si, d'accord? On tue un peuple, on tue des femmes, des enfants, des vieillards, des gens qui ne sont pas des combattants, on les massacre. Et personne ne dit rien, personne ne réagit. C'est une honte et c'est une obscénité que ces soi-disant pays des droits de l'homme puissent agir de cette manière-là. Ça me choque. Voilà.
Eh bien, écoutez, merci de nous avoir livré votre opinion. C'est très important, effectivement, d'en parler. Merci à vous, de Paris.
Merci à vous.
Farid Haïd, justement, souhaite réagir.
D'abord, c'est fort. Moi, d'abord, je vous remercie, Adil, parce que c'est important qu'on puisse en reparler. Et il y a quelques jours, j'avais, moi, un responsable du camp de Calandia en Palestine, parce que nous sommes la ville de Pierrefitte jumelée avec le camp de Calandia en Cisjordanie. Et il me disait, Farid, il faut qu'on parle de nous. Il faut qu'on parle de nous.
Et vous en dites ça?
Voilà. Peu importe, mais il faut qu'on parle de nous, de la situation en Palestine, etc. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent pas d'argent, ils veulent qu'on parle d'eux. Parce que si on parle pas d'eux, ça veut dire qu'ils n'existent plus. Ils ne sont plus là. Et ça, c'est important. Tu disais tout à l'heure, 33 000 morts. Femmes, enfants. Et personne réagit, personne ne dit rien. Je trouve, Adil, que même si la situation en France est compliquée, etc., mais on peut pas accepter ça. Quand on voit, et on a raison, quelques morts en Ukraine, on est choqué. Et là, 33 000 morts, on est moins choqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces morts-là, ils sont pas légitimes. C'est des sous-citoyens. Je sais pas, c'est des sous quoi. Et ça, c'est pas possible. Il faut qu'on en parle et il faut qu'on trouve une solution pour deux États palestiniens. Et il faut que nos gouvernements, deux États, un israélien, un palestinien côte à côte. Mais il faut que nos gouvernements, ils se saisissent encore plus de cette situation qu'ils ne le font pas aujourd'hui.
Je crois qu'on a un peu oublié. On n'en parle quasiment plus, justement, dans tous les médias. Et c'est pour ça que je voulais qu'on en parle ce soir. Allez, tout de suite, le Quoi de Neuf, et je vous donne la parole à Sam.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Le Quoi de Neuf, c'est avec le président fondateur, justement, de l'IRIS, et il est géopolitologue. Bonsoir, Pascal Boniface.
Bonsoir, Adil.
Plaisir de vous retrouver, justement, ça tombe bien. Nous étions en train de traiter du conflit israélo-palestine et de l'UNRWA. L'UNRWA, c'est votre billet d'humeur aujourd'hui. Et c'est parti, mon cher ami.
Oui, Adil, je prends la suite de la conversation. Effectivement, l'UNRWA, c'est l'organisme qui s'occupe d'aide à la Palestine, aux Palestiniens qui ont été chassés de leur terre. C'est un organisme qui a été créé en 1949 et qui s'occupe des écoles, des hôpitaux, etc. C'est 13 000 employés. Et parmi ceux-ci, eh bien, il y a 9 employés de l'UNRWA qui ont été accusés par Israël d'avoir participé aux attentats du 7 octobre. L'UNRWA a fait une enquête. Ils ont tout de suite licencié, d'ailleurs, l'enquête, ces 9 employés, en disant que bon, il fallait se méfier de cela. Mais cela n'a pas suffi. C'est que malgré le fait qu'ils étaient immédiatement licenciés, eh bien, la plupart des pays occidentaux, à la demande d'Israël, sauf l'Espagne. Il faut noter que l'Espagne tient un peu le rôle, finalement, que la France avait auparavant de pays européen qui soutient le plus la Palestine. Et donc, tous les pays occidentaux ont dit, on va arrêter, finalement, les financements de l'UNRWA. Au moment même où les besoins en termes de médicaments, en termes d'alimentation, sont les plus pressants, notamment dans la bande de Gaza, qui est pratiquement entièrement détruite. Alors l'ONU alarme en disant s'il n'y a plus de financement de l'UNRWA, c'est simplement la famine qui va guetter. Certains parlent même d'un génocide qui va, si les employés sont plus payés, mais surtout si l'aide alimentaire n'arrive plus. Et on voit finalement que les pays occidentaux, ils sont, quand Israël bombarde, ils continuent à fournir des armes à Israël. Mais si 9 employés de l'UNRWA sont accusés d'avoir participé à l'attentat, eh bien, on pénalise comme s'il y avait une faute collective qui concerne tous les Palestiniens. Et donc, on dit qu'on va suspendre l'aide. Et donc, après, ils disent on verra les prochains versements, etc. Mais on voit quand même, finalement, l'alignement immédiat des pays occidentaux sur cette demande israélienne. Parce qu'en fait, le but d'Israël, c'est que l'UNRWA n'existe plus. L'UNRWA qui vient en aide aux Palestiniens, mais qui, quelque part, est une compensation de leur expulsion et de l'occupation. Si les Palestiniens avaient leur propre État, ils n'auraient pas besoin d'être aidés par un organisme onusien. Ils pourraient produire eux-mêmes, exporter, etc. Et en fait, l'aide qui est apportée aux Palestiniens, certains disent, oui, les Palestiniens, c'est le peuple le plus aidé du monde, c'est scandaleux, mais s'ils pouvaient être indépendants, produire, exporter, importer librement, ils n'auraient pas besoin d'aide. Et l'aide qu'on leur apporte n'est que la compensation, très insuffisante par ailleurs, de l'absence de solutions politiques.
Merci et bravo pour ce billet d'humeur, effectivement. Merci de nous avoir rappelé ce regard autour de cette analyse aussi pointue. Merci Pascal Boniface, géopolitologue et le directeur fondateur de l'Institut Leris. Merci, à la semaine prochaine.
Avec grand plaisir, Adil, et bonsoir à tous.
Grand plaisir partagé. Hassan Benbarg, je ne vous ai pas entendu effectivement sur ce sujet. Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Écoutez, après l'intervention.
C'est vrai, c'est compliqué. Hein.
Après l'intervention de M. Pascal Boniface,
je pense que il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense qu'il a extrêmement bien expliqué les choses. Maintenant, je dirais, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en fin de compte? Qu'est-ce que nous, on peut faire aujourd'hui de pertinent
comme il a dit
pour
Faraday tout à l'heure, c'est trop fini d'en parler.
Il faut en parler, il faut manifester. Il y a encore une manifestation qui va avoir lieu, je crois, ce week-end.
Un État a le droit de faire la guerre, mais là où il n'a pas le droit, c'est de s'en prendre à des civils, et en particulier à des femmes et à des enfants. Et ça, c'est pas tolérable.
C'est les crimes de guerre. Il y a une chose qu'il faut rappeler aujourd'hui, c'est important, très rapidement, c'est qu'il y a une manifestation qui est partie le 20 janvier à Paris, qui est arrivée aujourd'hui à Bruxelles, manifestation des organisations palestiniennes française, ça c'est un geste fort, voilà. Et ça on n'en a pas parlé, mais nous étions au courant évidemment, donc c'était pour stop au génocide.
Voilà. Faudra qu'on en parle, la semaine prochaine absolument. On va en parler justement.
Il faut inviter les responsables. Des...
Ouais, absolument. Écoutez, on va prendre attache avec eux. Hein, Gamal Amina, merci.
Merci, toujours un plaisir.
Hassan Benbarek, à la semaine prochaine, messieurs. Oui. Farid Aïdoussi, à la semaine prochaine.
Merci.
Écoute, c'était un plaisir aujourd'hui, c'était plus calme, plus posé.
on était moins énervés.
Et il y avait du temps
la semaine dernière.
Il y avait du temps.
Parce qu'il fallait qu'on répare notre scooter.
Ça fait du bien aussi. Ça fait du bien. Je continuerai, chers amis auditeurs, parce que vous l'avez réclamé, et je vous le dis, je continuerai à traiter du conflit israélo-palestinien, parce qu'il n'y a pas de raison, effectivement, comme a dit si bien Farid Aïd, lui l'élu, de dire ne nous oubliez pas. C'est vrai, quelque part, il faut continuer à avoir ce traitement d'information, et c'est aussi le rôle d'un média. Oui. Solal, merci à la réalisation, il y a Nabil qui est là en pleine formation, ouais. Nabil. C'est là, c'est la suite, le relais, c'est ça? Hein, Nabil, il est au taquet, je le vois, tout à l'heure, il scrute tout, lui. Hein. Ça va, il est bon, Nabil, ouais. Il tient la route, Solal, ça va? Ouais, on peut l'embaucher en tant que réal.
Cool.
Ouais. Bon, alors, on va l'embaucher. Allez, ça y est. Il est aux manettes. Vous êtes prêts, Nabil, ou pas? Attention, hein, vous ne nous plantez pas. Hein. Allez, en tout cas, bon courage. Non, oui.
Ce que disait Farid, c'est très important.
Je dors en antenne, là, Hassan, là.
Pour moi, écoutez.
Non, c'était juste pour dire. Il est bon, lui.
Non, c'était juste pour dire que.
Il a raison, Hassan.
Il a raison, Hassan.
Je disais simplement, en termes de conclusion, je pense que ce qui est important dans ce conflit.
Moi, je dis merci.
C'est qu'en fin de compte, que le droit international soit respecté par tout le monde. C'est une nécessité aujourd'hui.
Bilal Lendemann, qui arrive.
Par la Palestine et par Israël.
20-21, Vanessa, 21h. 23h, demain matin c'est Kim dès 7h jusqu'à 10h, et puis tous les programmes évidemment sur Beurre FM. À demain avec autant de plaisir, mais vous savez ce qu'on dit ici.
On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.